Bienvenue.
Merci.
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 C'est votre voisine.
Qui vous a dit où était l'entrée? En fait, on aime bien cette idée que qu'il n'y ait pas de porte. Mais en fait, l'explication à l'origine, c'est qu'en fait, on voulait ne pas encombrer la vue depuis le poste de pilotage. Vous savez, sur ces péniches, en fait, le poste de pilotage est à l'arrière. Et donc, on doit garder évidemment une vue au-dessus de la partie avant pour naviguer. Donc, on ne voulait pas surélever cette partie-là. Et oui, en fait, le verre, en fait, on l'a mis exactement à l'emplacement de ce qu'on appelle sur les péniches les écoutilles. C'est avec les mariniers, quand ils utilisent la péniche pour transporter des marchandises, donc ont une série de tôles ici dessus qu'ils enlèvent pour mettre la marchandise et qu'ils remettent. Et donc ça c'est le... Il n'y a pas de surélévation, c'est comme ça que les mariniers l'utilisent, la péniche.
Et parce qu'ici c'est une péniche.
C'était une péniche qu'on
c'est
a achetée... Ah, oui c'est une péniche. C'est un automoteur. Et qu'on a acheté à quelqu'un qui travaillait avec cette péniche, donc jusqu'au dernier moment. Donc il a arrêté de travailler, de transporter, du grain en particulier, un mois avant qu'on l'achète et qu'on la transforme, le moins possible.
Vous avez tous le permis bateau? Il y en a un d'entre vous qui a le permis bateau?
Non, pour le moment aucun.
Okay.
Mais on appelle, quand on a besoin de le déplacer, on appelle l'ancien propriétaire.
D'accord.
Qui est très heureux de revenir et de reconduire une fois encore sa péniche. Parce que lui, il s'est arrêté de travailler quand il a vendu sa péniche et s'est installé sur une petite maison. Vous savez, souvent les mariniers, c'est comme ça en fait. Ils achètent une petite maison, en général à l'endroit où leur péniche était basée. Donc lui, par exemple, il est de Tourotte, qui est c'est un endroit comme Conflans-Sainte-Honorine où tous les mariniers se retrouvent. Donc il a acheté une petite maison là. C'était très émouvant d'ailleurs quand on a pris la péniche parce que. Lui, en fait, il nous l'a vendu, t'as une péniche, vous savez, les mariniers vivent sur leur péniche toute l'année. Quoi. Okay. Quelquefois, ils ont une petite maison, un petit pied à terre, mais globalement, ils passent tout leur temps sur la péniche. Et quand il nous l'a vendu, il nous l'a donné sans rien enlever. Rien. C'est-à-dire, dans son logement, c'était
les
très étonnant.
Les
meubles, bien sûr, mais il a même laissé tout le reste, toutes les photos et tout ça. C'était très étonnant. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais si, finalement, c'était voilà, c'est sa maison, un peu comme ça.
C'était
donc,
là.
C'était là, et il n'y avait pas de raison à les enlever. Il n'y a pas de raison. Il ne vendait, je ne sais pas. Il ne vendait pas. Quand on vend un appartement, en général, on récupère ses propres affaires.
Quoi.
Oui, ça. C'est dit. C'était très attachant, enfin, très agréable.
Et du coup, vous avez fait quoi?
Oui.
Ah, du coup, on a enlevé des choses. Il a proposé de venir, de suivre tout ça. Et donc, il a suivi toute l'évolution de la péniche, etc. Mais. On a enlevé les éléments en faisant très attention, lui demandant si vous l'avez récupéré ou pas. Et voilà, il nous a donné avec tout.
Il les a récupérés
finalement? Non. Non, c'est étonnant, hein?
Ouais.
Et je crois que le rapport que les mariniers ont avec leur péniche, c'est un truc très, très particulier. Ils y sont toute la journée, quoi. Toute la journée. Ils travaillent, ils y dorment. Ils sont des nomades. Et on vivait, on naissait sur les péniches. Les gens, donc c'était vraiment. On naissait sur une péniche, on naissait sur un bateau.
Où est le moteur?
Ici, il est juste derrière cette cloison ici. Si vous voulez voir, il y a juste une porte. Toutes les péniches sont faites de la même manière. Donc, tout l'espace, il y a le plus d'espace possible évidemment pour la cargaison, hein, puisque en fait ce sont des camions. Donc plus on a de capacité, plus on peut transporter de mètres cubes de tonnage. Et puis tout l'arrière est consacré, donc il y a le logement du marinier qui est accessible en général depuis le poste de pilotage, et puis sous le logement, le moteur.
Et la péniche était construite en quelle année?
1954. C'est un délire, hein. En fait, en 1954, c'était les dernières péniches, vous voyez, qui étaient comme ça, qui étaient rivetées. Il y a deux techniques de construction. Il y a soit le rivetage, c'est-à-dire que vous avez des tôles qui sont assemblées avec des rivets, donc des trous comme ça, qui sont des. Vous faites des percements, et puis vous avez donc une pointe qui arrive d'un côté, et puis qui est chauffée rouge pour qu'elle soit malléable, pour qu'elle soit transformable. Et puis de l'autre côté, on maintient d'un côté avec un marteau. Frappe de l'autre, donc on pince la tôle Et comme le métal se rétracte quand il se refroidit, ça comprime, ça s'écrase, et ça comprime vraiment les tôles. Donc ça, il y en a, ça c'est les dernières péniches rivetées, 1954, 1955. Parce qu'après, donc, tout le monde a commencé à souder.
C'est le 19e.
Oui, le rivetage, la tour Eiffel.
Le pavillon Baltard avec le Baltard, c'est une bibliothèque.
Tous les bâtiments en acier étaient rivetés. Le métro, tous les viaducs du métro. C'est assez beau comme technique. C'est pas idiot encore. Vous savez qu'aujourd'hui encore, les avions aujourd'hui sont de plus en plus collés, mais les avions, normalement, en aluminium, ils sont rivetés encore.
Aujourd'hui, ils sont collés.
De plus en plus. Je crois que sur les Airbus, c'est ça, sur les Airbus aujourd'hui, je crois que c'est près de 50% aujourd'hui qui est collé avec des composites, du carbone. Mais ça n'a jamais été, presque, les avions n'ont jamais été soudés. C'est difficile de faire confiance à ce vieux. Alors que le rivetage, vous voyez, vous pouvez les dénombrer, combien il y en a, comment ils sont posés.
Chaque projet, les clients viennent, on leur demande comment ça se passe dès le début d'un projet, ça se passe sur cette table,
comme pour l'hôpital, parce qu'en fait on a travaillé beaucoup ici.
D'accord.
Pour l'hôpital, on a commencé à travailler en 2004-2005. Mm-hmm. Voilà, il y avait beaucoup de réunions, il y avait presque une réunion par semaine, mm-hmm. ici, sur cette table. Ce qui est important pour nous, c'est que quand un client a besoin d'un bateau ou d'un bâtiment flottant, c'est qu'il soit très précis sur ses besoins et ce qu'il veut y faire. Mm-hmm. C'est vrai que nous sommes, en tant qu'architecte, on est responsable, on est spécialiste de l'espace, donc on a besoin que le futur utilisateur d'un bateau ou d'un bâtiment soit très, très, de plus en plus précis sur ce qu'il veut faire et ne parle pas en termes d'espace.
D'accord.
On parle plutôt en termes d'activité, d'usage.
D'usage, oui.
Plus le futur utilisateur est précis en termes d'usage, plus nous, on peut être précis en termes d'espace pour répondre et supporter ou aider à cet usage. Donc c'est vrai que normalement, l'espace, les bâtiments, c'est une question de spécialistes et que normalement, les spécialistes sont les architectes, les ingénieurs. On a toute une formation qui fait qu'on devrait être théoriquement spécialiste de l'espace, de l'organisation de l'espace, des proportions de l'espace, théoriquement.
Et c'est ce qui s'est passé avec la maman, vous avez construit autant les rotondes de droite, de gauche, tout ça c'était donc...
On l'a vu ensemble complètement.
Tout ça c'était étudié.
Mais ça a très bien marché, ça a très bien marché avec sur le projet de l'hôpital, parce que de la demande, parce que petit à petit, je crois que tout le monde a bien compris qu'on avait besoin de ne pas parler en termes d'espace. Mmh. Et nous, évidemment, après, à chaque fois, à chaque réunion, on apportait des plans, on essayait d'expliquer ces plans. Mais par exemple, il y a très peu de gens qui sont vraiment capables de comprendre un plan. Il y a des gens qui sont carrément totalement incapables de faire le rapport entre un plan et puis l'espace réel.
Faire des maquettes.
Les maquettes, c'est beaucoup mieux déjà. Mais il n'y a rien de plus trompeur que les images aujourd'hui. Par contre, vous savez qu'aujourd'hui, en architecture, on fait beaucoup d'images de synthèse et on peut arriver à un niveau de ce qu'on appelle de réalisme important, mais qui en fait souvent est très trompeur. Il n'y a rien de plus trompeur que l'image.
Ça ne suit pas le plan ?
Comment ?
Ça ne suit pas le plan ?
Disons que l'image, c'est quelque chose qui est manipulable.
Ça fait de l'esbrouf un peu.
Oui. On peut raconter ce que l'on veut sur une image.
Ah, d'accord. Il faut avoir le plan avec soi, quoi.
Au moins. Il faut au moins recouper avec le plan. Le plan déjà permet
de se représenter
un peu plus les choses, de recouper par rapport à l'image. Mais aujourd'hui, c'est le problème un problème important en architecture. C'est que sur une image d'architecture, il faut dire ce que vous voulez.
On peut se croquer facilement, finalement.
Oui, c'est un peu ça finalement. En tout cas, raconter l'histoire qu'on veut, finalement, sera assez éloigné de la réalité de l'espace construit. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en effet construire. Quand on essaie de comprendre ce que va être un projet plus tard, il vaut mieux construire une image en soi. Imaginer,
ouais, c'est ça.
Il vaut mieux le faire à partir de plans, et des plans, des coupes,
des volumes,
quelque part, des maquettes. Les maquettes, c'est intéressant aussi. Il vaut mieux faire comme ça. Parce que si vous essayez de comprendre si vous vous laissez emmener simplement par les images aujourd'hui telles qu'elles sont faites, vous risquez d'être en effet très déçu. Il vaut mieux construire sa propre idée. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est valable pour les gens qui ne sont pas architectes, c'est valable aussi pour les architectes. C'est encore une fois, mais c'est très dangereux l'image. Actuellement, on travaille avec des gens qui sont les grands donneurs d'ordre, des gens comme Vuitton, etc. Ce sont des gens qui construisent beaucoup de bâtiments. On se rend compte qu'aujourd'hui, les responsables des grandes entreprises qui construisent des bâtiments importants, ils ont besoin d'outils de visualisation. Quand ils essaient de définir ce qu'ils veulent comme visualisation, parce qu'ils se méfient de l'image, ils disent par exemple qu'ils veulent du noir et blanc. Déjà, oui. Ils veulent du noir et blanc. Ils veulent pouvoir se promener dans les espaces, donc avoir un écran assez grand, qui fait qu'ils peuvent se promener dans les espaces pour vérifier les tailles des espaces, ou leur lumière, mais ils veulent être en noir et blanc par exemple. Parce qu'ils ne veulent pas se laisser avoir par cette sorte de fausse réalité. C'est une grosse question en architecture, ça. C'est une grande question aujourd'hui. Oui, parce que les images que vous produisez vous-même de votre travail peuvent vous aveugler vous-même. Et très bien, penser qu'elles sont parfaites, par exemple, qu'en fait elles ne sont pas du tout. C'est pour ça que tout le travail de la prévisualisation, par exemple, dans le cinéma, c'est un travail qui se fait à plusieurs. C'est déjà plus facile parce que c'est un travail qu'on peut faire à 10, 20, 30, donc recouper les avis. Et quand on est tout seul en face des images qu'on a fabriquées, c'est peut-être un vrai.
C'est long, un certain regard.
Oui, une grosse habitude, pas mal d'expérience.
Un gros recul.
Mais en tout cas, ça c'est une question vraiment extrêmement importante. Je ne sais pas si vous développez une démarche artistique, mais ça, c'est très important, c'est une question de fond. Et ça peut être très trompeur. Vous voyez, par exemple, dans les grands concours d'architecture, par exemple, aujourd'hui, il y a un retour complètement en arrière sur l'image. Et la plupart des concours aujourd'hui se font, il y a une exigence pour faire des maquettes blanches. Même pas des maquettes avec rendu les matériaux, vous voyez. Il y a un moment où la plupart des grands concours aujourd'hui se traitent avec une maquette. Tous les concurrents remettent une maquette à la même échelle et entièrement blanche. Pour qu'on retrouve un élément, oui, qui permet de mieux comparer les volumes, les proportions, de se faire ce que vous disiez, c'est une image, votre propre idée du bâtiment. C'est la même question sur la photographie. Vous pouvez très bien avoir un bâtiment quelconque. Si vous avez un très bon photographe, il va y aller, il va choisir un magnifique ciel d'Île-de-France avec quelques nuages, etc. Il va prendre des angles de vue, il va jouer sur les focales, et il va pouvoir donner une image d'un bâtiment peu intéressant, il va pouvoir fabriquer une image extrêmement brillante. C'est exactement pareil. L'image, c'est une vraie question. Comment on détourne, comment on déforme, comment on transforme. C'est pour ça qu'en architecture, quand vous voulez vous faire une idée d'un bâtiment, la meilleure solution, c'est quand même d'aller le visiter. En tout cas, pour ce qui est de cette péniche, hein, parce qu'on parle de ça, quand on l'a choisi, on l'a choisi pour certaines raisons, donc c'est qu'on l'aimait, déjà. Donc la recouvrir de placoplate, c'était absurde. Et puis, la laisser comme ça, ça avait une deuxième raison très claire, c'est que l'atelier, c'est pas simplement un lieu et une équipe de production, c'est aussi beaucoup d'enseignement. La plupart des gens qui arrivent ici sont des gens qui sortent de l'école en général, qui passent 3, 5 ans, 10 ans et qui apprennent leur métier ici. Et le bateau lui-même est un véritable support pédagogique. Les péniches comme celle-là sont des objets qui ont été mis au point pendant à peu près, je sais pas, 80 années, un siècle peut-être. D'acier. Donc tous les détails sont absolument exemplaires. Donc c'est une source. Le passé, c'est évidemment forcément déjà aussi une source d'enseignement, mais ça reste vivant, quoi. Parce que dans l'acier, par exemple, les détails, l'optimisation des détails ici est totalement réutilisable encore aujourd'hui, même pour des projets à venir. Vous voyez, cette notion d'innovation n'est pas. Quand on y installe, on se rappelle qu'il y a aussi une question de la formation. L'innovation, c'est souvent une illusion. Sauf dans certaines, évidemment, des marges, dans certains domaines qui sont extrêmement ciblés, comme par exemple l'informatique, on parlait de l'image tout à l'heure, une quantité d'innovation absolument fabuleuse. téléphonie, dans tout ce qui est dans le net, dans la transmission d'informations. Là, on sent qu'il y a de l'innovation absolument incroyable, galopante. Mais par exemple, dans la construction acier, j'ai du mal à imaginer que le viaduc de métro, là-bas, 1903, puisse faire mieux aujourd'hui. Ah ouais. En termes de quantité d'acier utilisé, en termes d'impact écologique. Il n'y a pas vraiment de progrès. Mais déjà, si on apprend à construire aussi bien que les gens l'ont fait, par exemple, pour le métro en 1900, c'est déjà pas mal. Et si on parle de construction acier, par exemple, l'informatique, quand on fait un chantier à Chine, parce qu'il faut, c'est vrai qu'il faut vivre à l'époque, à une époque planétaire. Hein. Là, c'est fantastique parce qu'on travaille avec un bureau d'études qui peut être à Dubaï, on envoie des documents en Chine comme ça, par le net, on transmet des ensembles d'informations qui sont fabuleuses, on reçoit l'information aussi. Ça, c'est un moteur absolument prodigieux. Là, on sent qu'il y a vraiment une vraie accélération. Mais par exemple, si on parle d'informatique sur nos méthodes de travail, sur le dessin par exemple, parce qu'à un moment, évidemment, en tant qu'architecte, on dessine ce qui va être construit. On va dessiner de façon la plus précise possible, si on veut avoir une fidélité dans l'objet construit. Mais on n'a pas d'énormes gains de temps sur l'informatique, sur le dessin. Disons que c'est 20 à 30%. Et quand vous aviez quelqu'un qui dessinait tout à la main, même des plans de réalisation, des plans très précis. Aux États-Unis, par exemple, vous avez une technique de dessin au crayon. Avec quelques outils, c'est prodigieusement efficace. Donc, il n'y a pas de gain vraiment dans l'informatique, par exemple, dans notre travail, qui est celui qui est un travail de dessin. Et par contre, dans l'échange d'informations, c'est fantastique.
C'est là où c'est le plus puissant, le plus intéressant.
Fantastique. Parce qu'après, tout ce qui est visualisation, vous voyez, après, notre problème dans la visualisation des objets que l'on conçoit, c'est justement le problème de ne pas être piégé par les propres images qu'on produit. Si je prends l'exemple, par exemple, du dessin informatique, même si je prends le dessin qu'on appelle en 2D, c'est le dessin du plan traditionnel. Quand vous les faites à la main, au crayon par exemple, il peut être extrêmement précis, mais vous n'avez pas cette illusion justement de la perfection, et comme vous disiez, du fait que le travail est achevé. Alors que dès que vous faites votre dessin sur AutoCAD par exemple, le même dessin sur AutoCAD, immédiatement vous allez l'imprimer, il va vous sortir un dessin absolument parfait, mais pur, idéal, et tout de suite vous allez avoir l'impression que peut-être une illusion, que votre travail est terminé.
Ouais. C'est vrai que ça peut être frustrant parce que finalement c'est comme si on avait fini le travail alors qu'on n'a encore rien fait. Dans l'image, dans le symbole, on fait notre travail,
absolument,
qu'on veut réaliser et on l'a déjà sous les yeux.
Exactement.
Ça peut être très frustrant en fait.
C'est très frustrant. Et en plus difficile parce que quand vous imprimez un plan qui est parfait par exemple, et vous essayez de le mettre sur le table comme ça et de retravailler dessus, c'est très difficile parce qu'il est totalement parfait, il est pur, il est opaque. Donc
c'est presque peur.
Absolument. En tout cas, c'est extrêmement difficile de rentrer dedans et de proposer une modification, de continuer à rentrer dedans. C'est une véritable limite. Et notre travail, nous, par exemple, en tant qu'architecte, c'est quand même 80%, 70%, disons, de temps de réflexion. Au moins les deux tiers, 60% de temps de réflexion. Et 30 à 40% de dessin, pas plus. Donc si vous gagnez 10 à 15% de temps de travail sur le dessin, vous allez gagner 4% sur votre temps global. Quoi. Parce qu'il faut évidemment quand même travailler comme le plus vite possible. Si ça prend beaucoup de temps, il faut quand même être efficace. Et tout le temps de réflexion, par contre, ça arrive. C'est un temps... L'informatique ne vous aide pas. Ça, c'est des problèmes vraiment de fond pour nous. Et qui génèrent derrière les vrais enjeux, quels qu'ils soient, de qualité de notre travail, d'efficacité, parce qu'il faut quand même en vivre, donc il faut quand même optimiser notre temps de travail par rapport aux honoraires qu'on touche, c'est au cœur du problème. Il faut faire avec, pourtant, des outils informatiques qui sont fantastiques. C'est fantastique. Et oui, par exemple, tous nos projets, quand on reçoit nos clients, on les montre sur un écran. Il faut vraiment raconter ce que vous voulez. Par contre, après, c'est construit, et là, et encore une fois, c'est vraiment la question de la photographie, elle est la même. Je me souviens, pendant un moment, je je m'étais posé la question des revues d'architecture. Parce que les revues d'architecture sont des revues qui sont là pour faire la promotion. Non, qui sont là avant tout d'abord pour se vendre. C'est comme les revues, les bonnes, n'importe quoi. Leur première raison quand même d'exister, c'est quand même d'être des entreprises qui se vendent, donc qui sont attractives, etc. Et donc pour faire cela, elles ont besoin de valoriser énormément les projets qu'elles présentent. Et donc j'avais fait l'expérience un jour de prendre une revue, parce que c'était une revue qui était réservée à des opérations de logement en Ile-de-France, donc c'était pas trop loin. Il y avait une quinzaine, une douzaine d'opérations de logement, neuves, et je suis allé toutes les voir. Le mensonge était absolu. Ah ouais. C'est un mensonge terrible. Je me suis dit, plus jamais de revue d'architecture. C'est clairement du mensonge. Mais actuellement, par exemple, on a un client qui est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, il fait du cinéma, il est producteur de cinéma, qui a l'habitude de l'image. Et lui, il a une relation avec les images qu'on lui montre qui est très distante et il fait attention. Il fait attention. Parce que c'est un vrai spécialiste de l'image. Oui.
Bonjour.
Bonjour. Moi, je travaille beaucoup avec des carnets, j'ai des carnets sur moi, donc c'est très classique. Hein. Les architectes travaillent souvent comme ça. On a un carnet sur soi, on note, prend des notes.
La concentration, justement, de ces moments.
C'est même pas. C'est plus. La question importante, c'est plus celle de la rumination. Il y a des moments où, en fait, le projet, c'est comment virtuel. Mm-hmm. On ne travaille pas. On ne fait pas d'esquisse, quoi. On dit, voilà, ça peut être comme ça. Bon, en tout cas, mon ordinateur, c'est ça. J'ai une méthode de travail, moi, personnelle, qui est basée sur ça. Sur le fait que j'ai trois couleurs. Enfin, plein de méthodes de travail, hein, différentes. Chacun a sa méthode de travail. Et moi, ça, c'est mon ordinateur. Je travaille avec ça. Toujours. Tous les jours. Que je travaille sur un détail d'un projet, ou que je travaille sur tout le projet. Mais par contre, j'ai une méthode très précise, donc j'ai l'habitude de mes outils. C'est valable comme tous les métiers. Hein. Tous les métiers, c'est pareil. Quand on commence à avoir un outil que l'on connaît bien, évidemment, on a intérêt à se perfectionner dans cet outil et à le connaître le mieux possible. Mais je sais que, par exemple, quand j'utilise le jaune, ça veut dire quelque chose de très précis pour moi et aussi une possibilité derrière de le recouvrir, de... Tous les métiers sont comme ça. Quoi. On a besoin d'outils que l'on connaît bien. C'est extrêmement important. J'ai lu dernièrement quelque chose que Stark parle de ça. Il parle des outils qu'il utilise, du carnet précis qu'il utilise. Il utilise un feutre, toujours le même. Il en parle très précisément. C'est extrêmement important. Et je sais pas si vous... enfin, j'ai vu dernièrement un projet, un sujet sur lequel travaillait Stark. C'est très surprenant. C'est extrêmement précis. Donc ces dessins sont toujours les mêmes, extrêmement précis, toujours à l'échelle, toujours avec le même outil, toujours. C'est pas être maniaque, c'est simplement bien connaître un outil.
C'est vraiment créer une énergie. Quoi.
Oui.
Nous faisons évoluer non pas de manière procédurale, mais touche par touche.
Quoi. Ça peut être ça, oui. C'est touche par touche, c'est ça. Mais en tout cas, avec connaissant bien l'outil, vous posez la question de comment ça se passe, c'est surtout avec quel outil ça se passe. Ça peut être après, ça peut être n'importe où, ça peut être sur un petit format, ça peut être sur un grand format. Il y a des moments, par exemple, on travaille sur des détails, moi j'aime bien travailler échelle grandeur. On a enlevé, mais par exemple, ici, il restait longtemps le. Je vous le montrer si facilement. Le détail échelle grandeur des volets de l'adamant. Ça va jusqu'en bas, mais c'est échelle grandeur. Mais de tous les volets. Oui, ça, vous avez le volet en coupe,
oui.
Qui se relève comme ça.
Oui.
Avec tous les barres, les façades, les détails du haut, etc. Donc on peut travailler même échelle grandeur, mais on voit la fiche. La fiche, ça vient jusqu'en bas, ça c'est pas une. Ça doit être les châssis du bas, ça. Ceux des rotondes en bas. Là, vous avez le. Ça c'est le pont derrière ici. enfin le pont, le pont des rotondes hautes, ouais. Ici.
Ça c'est le petit volet intermédiaire, ça c'est les 1, 2, 3, 4,
les 5 volets jusqu'en bas. Vous avez là, le, ça c'est le bord de la côte après descendre. Donc, on travaille vraiment à toutes les échelles. Et donc là on peut très bien travailler. Il m'arrive quelquefois de commencer à travailler sur un détail comme ça, en prenant un grand bout de papier, puis on dessine à l'échelle grandeur du détail, parce que grandeur, on voit bien les proportions, les sections des bois. Oui. Ça peut être un petit dessin grand comme ça. Et je commence moi toujours avec ces mini outils. Ça, c'est un détail qui a été fait déjà quand il était plus ou moins au point, on l'essaye.
Vous parliez donc d'outils, ce serait le crayon, le compas, la règle.
Ça c'est fait, ça c'est un dessin informatique. Ça.
D'accord.
Mais, en fait, c'est une question, c'est quelque chose que je disais toujours à mes étudiants, c'est tous les moyens sont bons. Tous. Mais évidemment, ceux que vous connaissez bien sont encore mieux. Tous les moyens sont bons, on peut couper des bouts de papier, on peut utiliser l'informatique, on peut utiliser des crayons, on peut utiliser... Tous les moyens sont bons pour comprendre, pour voir, pour... Tous. Tout est bon. Il n'y a pas de tri possible. Après, par exemple, en architecture, on utilise ce qu'on appelle les échelles, vous savez. Un plan, évidemment, on ne peut pas... sauf quelques détails comme ça, on ne peut pas dessiner un bâtiment à échelle grandeur. C'est ce qui se faisait par contre, par exemple, dans l'époque médiévale. Vous avez des techniques assez intéressantes pour faire à échelle grandeur. Tout aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, on utilise des échelles. On représente le bâtiment à différentes échelles qui sont normées, le 50e, le 100e, le 20e. Et donc, c'est important aussi, dans votre méthode de travail, d'avoir une bonne habitude des échelles. Parce que quand vous présentez un plan, par exemple au 100e, il est important qu'il soit rigoureusement bien à l'échelle que vous connaissez. Sinon, vous pouvez faire des erreurs dans les mesures. Des erreurs dans les mesures, c'est très ennuyeux. Dans les proportions d'espace. Dans la représentation en architecture, il y a des systèmes bien cadrés. Dans ces systèmes, dans ces références, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Par exemple, quand on avance dans un projet, moi j'aime bien commencer au 200e. Pour les bâtiments de taille notamment, hein. On commence au 100e, très très vite, quand on est capable de passer au 50e, ça veut dire qu'on connaît déjà bien le bâtiment. Et après au 20e, on fait des études de détail. Et après on termine l'échelle grandeur. Mais à l'époque médiévale, ils n'avaient pas ces outils-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on sait à peu près comment ils faisaient. Donc pour les grandes basiliques, par exemple, ils étaient tracés au sol par l'architecte. Donc ils préparaient un grand sol propre, comme ça. Et donc ils repéraient les places des colonnes en direct. Et il y avait un système de rabattement qui fait que vous pouvez dessiner les élévations, comme ça, sur le plan, comme ça, à partir des proportions, tout ça, vous montez. C'est une technique très, très, très particulière.
Les bois que vous
utilisez. De plus en plus, on utilise ce qu'on a utilisé pour l'adamant, parce qu'on est assez content du bois sur l'adamant. Le sol est assez résistant, oui. Pas besoin de beaucoup d'entretien, les menuiseries extérieures sont, malgré quelques petits problèmes, assez résistantes.
Donc mieux que le tech, c'est connu pour la construction.
Le teck, c'est le plus beau des bois pour la construction à bord, des bateaux. Le problème, c'est qu'en fait, il y a peu de vrais teck aujourd'hui. Puis le teck est très protégé. Le vrai teck, c'est un teck qu'on trouve en Birmanie, surtout, qui est un bois absolument magnifique. Il y en a peu, il est protégé. Puis il y a beaucoup de bois qui sont vendus comme du teck, en fait, qui ne sont pas du tout. L'IP, il y en a un peu plus. Mais l'IP, il y avait eu de gros problèmes écologiques après la grande bibliothèque, parce que tout le parvis de la grande bibliothèque est en bouton.
Ah ouais.
Donc ça faisait tout d'un coup, je crois, une forêt qui passait. Donc il faut faire attention à cette... C'est une dimension importante, celle du développement durable, de l'écologie, la préservation en fait du bois. Si on utilise du bois, c'est bien, mais il faut savoir aussi qu'il faut le renouveler, je me dis. Mais le problème avec les bois d'élevage aujourd'hui, qui sont ce qui est exigé aujourd'hui pour des raisons écologiques, c'est que souvent ce sont des bois qui sont trop jeunes, trop petits, donc il n'y a que des petits débits. C'est pas très généreux. Il y a des temples au Japon, par exemple, vous avez des planches qui sont comme ça. C'est autre chose, parce que vous êtes vraiment dans l'arbre. Et ça, il faut du temps. Il faut accepter de moins construire. Oui, et puis surtout du temps, parce que on n'a plus de temps. Quand... Moi, pour que ce soit les bateaux, d'abord, on plantait les forêts. Aujourd'hui, non. Les futurs clients des bateaux, ils les veulent tout de suite. On s'occupe actuellement de la construction d'un bois, d'un bateau en bois. On est en charge de la reconstruction, restitution des bateaux lavoirs de Laval. C'est la seule ville en France qui ait gardé deux bateaux lavoirs. Vous savez, il y avait plein de bateaux lavoirs dans les villes. En fait, c'est là que se lavait le linge. À Paris, il y avait 80 bateaux lavoirs. Ouais. Et donc, on reconstruit ça. Donc, on s'occupe de la reconstruction de ce bâtiment. En fait, c'est une sorte de boîte qui fait 30 mètres par 5 mètres en bois. Comme c'est un monument historique, il faut la reconstruire en bois, on n'a pas le droit de mettre du plastique dessus. C'est très particulier, la construction en bois des bateaux, c'est très intéressant, c'est une vraie technique.
Et alors, à quel usage ?
Déjà au moins d'être restitué à la population, parce qu'il était utilisé jusqu'en fait, jusqu'en 1970. En 1970, il y avait encore des gens de Laval qui allaient laver leur linge au lavoir.
70. 70.
Ouais. Et donc, il y a encore des gens qui s'en souviennent. Bien sûr. Et donc pour les gens de Laval, c'est très important de garder ça. Vous vous rendez il y en avait 80 à Paris.
Ouais, c'est énorme. Hein.
Voilà, donc autrement, c'est un espace qui en fait est ici est fait pour abriter une équipe. Donc c'est bien parce que c'est aussi une échelle. On ne va pas devenir. On n'a pas de 200, on est une douzaine, une quinzaine. Le bâtiment, il est à l'échelle de nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez sur l'Adamon, mais en tout cas, petit à petit, à force de rester sur le bateau, je sens que je deviens, ce que je disais la dernière fois, je deviens nomade. Je suis de plus en plus incapable de... Imaginez que d'être propriétaire, un terrain fixe.
Ouais.
Bon, on devient nomade quand on a envie de. Je crois que c'est bien finalement comme idée d'être nomade. On n'est plus assez nomade, on devient tous trop sédentaires, ouais, attachés à notre truc. Là,
on n'a pas notre propriété. Le pain de terre. Quoi.
Pas le pain de terre, c'est ça.
Et en parlant un peu sur l'émotion, parce que jusqu'à présent on parle un peu. Technique, mais sur l'émotion quand une œuvre est terminée, de retourner par exemple à l'avant pour une demande, qu'est-ce que ça nous fait, de retour
dans la danse,
voilà, tout à fait.
Je crois que c'est vraiment, moi en tout cas personnellement, ce qui vraiment m'intéresse, c'est vraiment l'usage. Mm-hmm. Savoir est-ce qu'il correspond à l'usage qui est prévu, est-ce qu'il est agréable à vivre, est-ce que. Pour le reste, sinon les formes. Vous savez, quand on passe d'un projet à l'autre, donc on est toujours dans le prochain projet.
D'accord.
Et puis dans les anciens projets, on y trouve sur les éléments architecturaux que les défauts. Mais. Pas toujours, quand par exemple ça correspond un peu à un usage qui fonctionne, ça c'est vraiment très important. J'ai par exemple sur les damas, par exemple en ce moment vous avez chaud, il y a des défauts, mais globalement j'ai l'impression quand même que ça marche, quoi. Ça fonctionne. C'est un bâtiment dans lequel on a envie, je crois, envie d'aller, enfin, c'est que ce qui m'est dit. Par contre il fait trop chaud, on a envie d'y être, et ça c'est extrêmement important.
C'est agréable, il y a toujours du monde qui vient à la dame, sauf que ce soit des gens qui sont anti et qui pensent que c'est un lieu restaurant, qui veulent vraiment entrer dedans parce qu'ils trouvent que le bateau est très beau. Et, voilà,
plaît, ça, ça, ça c'est vraiment important. Ça. Puis en plus que ça ressemble à plein de choses. On a travaillé avec cette idée que ça devait être domestique, par exemple. Ça doit être comme chez soi. Pourquoi pas? On fait aujourd'hui des ensembles de bâtiments, des bureaux, par exemple. Des bureaux, c'est un enfer. C'est une image, un immeuble de bureau récent, c'est épouvantable. Il y a tous les codes du bureau. La façade, les couloirs, les cloisons, les bureaux, les sièges. C'est épouvantable. Qu'est-ce que c'est? Aucune obligation.
Pas qu'il y ait de méprise, pas qu'il y ait de
malentendu. Pas qu'il y ait de malentendu, c'est ça.
Vous savez où vous êtes.
Et ça.
Ne pas se tromper.
C'est étonnant quand même. Alors qu'on pourrait faire des bureaux qui soient comme chez soi, qui soient libres, ça serait la même efficacité.
Du chez soi comme au bureau.
Et c'est étonnant. Et par exemple, dans l'hôpital, on a beaucoup travaillé sur cette idée que, par exemple, ça puisse être domestique, ou que simplement ce soit des lieux qui soient destinés pour qu'on y soit bien, surtout, enfin, on a envie d'y aller.
Ouais.
C'est vrai que on traite tous les projets comme ça. Globalement, un bâtiment flottant, ça vaut quand même toujours 30 à 40% plus au mètre carré qu'un bâtiment terrestre. Après, la différence, dans l'adamant, c'est qu'il n'y a pas de foncier. Il n'y a pas de terrain. Hors terrain, bien sûr. Donc, financièrement, c'est quand même pas inintéressant. Mais bon, après, il y a la location du plan d'eau, location au port, tout ça. Mais globalement, c'est ce qu'on dit. Ce sont des bâtiments qui sont chers. Quand on a réaménagé ce bateau ici, l'idée c'était de ne pas donner un seul coup de peinture. Oui. Parce que il était peint déjà comme ça. Et ça en fait, ça c'est une couleur traditionnelle d'anticorrosion d'acier. Mm-hmm. C'était dans les primaires anticorrosion comme ça, il y a 4-5 couleurs, pas plus. Vous savez, il y a les rouges comme ça. Et traditionnellement, il y avait tous les verts clairs qu'on trouve sur les anciennes charpentes, le grand palais, tout ça. Il doit y avoir un jaune et un orangé. Oui. Puis un gris. 4-5 couleurs. Donc déjà, vous avez la similitude de la couleur, parce que sur l'adamant, on s'était dit de la même manière, on s'était dit, l'acier, il est construit par des gens qui aiment leur métier, donc on va garder toutes les marques. Sur les tôles, ils font des marques, ils font des repères, ça. Donc on s'était dit, voilà, on le garde comme ça, pour les mêmes raisons. Donc déjà, vous avez la même couleur rouge, après il y a du bois,
le noir.
Parce que ça, c'est une autre raison, c'est que c'est quelque chose qu'on a compris petit à petit, c'est que dans la marine, en général, dans les bâtiments flottants, vous ne posez pas l'isolant comme dans un bâtiment terrestre. Dans un bâtiment terrestre, tout est collé. Il y a une plaque au plâtre, c'est collé. Alors que dans la marine, en fait, on pose les isolants, vous voyez, comme ici, là, en dessous, là, quand il est en plafond en particulier, on met des aiguilles et on accroche l'isolant de la même manière. Et cet isolant, il se trouve toujours en noir, comme ça. C'est simplement par similitude des matériaux mis en œuvre, déjà. Finalement, ce qui est important, c'est les matériaux, puis les entreprises, les gens qui mettent en œuvre les matériaux. Et là, c'est aussi une merveille, parce que un architecte qui oublierait cette part-là, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Organiser les entreprises, surtout permettre aux gens travail en bâtiment, s'exprimer. Si on fait pas ça, vraiment, c'est un scandale. Vous imaginez tous ces gens, autrement, qui travaillent dans le bâtiment, dans des conditions qui sont difficiles, s'ils n'ont pas la possibilité d'exprimer leur savoir-faire, d'exprimer leur plaisir. Ça, il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui aime ce métier, il n'y a plus personne qui le connaît, et donc on fait du béton avec des plaques de plâtre. Mon père était dans le bâtiment, c'est beaucoup de temps sur les chantiers. Moi, c'est une passion, donc évidemment, je peux en parler facilement. Si tout d'un coup, vous dessinez des bâtiments, vous les faites construire par des gens qui n'ont pas du tout envie, et en plus à qui vous ne laissez aucune possibilité d'exprimer leur plaisir ou leur savoir-faire, tout ça ne sert à rien. Ça sert qu'à faire des mètres carrés pour spéculer.
Ce sont les hommes robots.
Ouais, même si encore des robots, je ne sais pas. Des gens en tout cas qui souffrent, qui n'ont plus aucun plaisir dans leur travail. Quelle horreur. Bon, on connaît tous les romans, le gothique, tout ça, la place des sculpteurs. Les sculpteurs, ils s'éclataient, quoi. Ils s'éclataient. Vraiment. Les gens qui travaillaient la pierre, il s'éclatait complètement, il s'exprimait complètement. Alors, il y avait une place pour chaque chose, une place pour le maître d'œuvre qui donnait les grandes lignes, les proportions, les manières de construire, la technique aussi de construction, parce qu'il faut aussi que ça ne tombe pas. Et puis la place des gens qui construisent et qui s'expriment. Par exemple, dans l'Adamant, au début, après la, quand il était ouvert, on avait proposé aux gens qui avaient fait l'acier, aux chaudronniers de venir. Quel bonheur pour eux. Il y avait des gens très bien qui ont travaillé sur ce truc-là, très très bien. Les gens qui ont fait la passerelle, par les passerelles, c'est des gens vraiment pointus. Hein. Il y a des choses pointues. Et le fait aujourd'hui d'assembler des pièces d'acier, de les souder, c'est un travail. Il faut avoir essayé une fois de prendre une baguette à souder et de souder deux pièces d'acier pour comprendre à combien c'est subtil et exigeant.
Ce sont les mêmes qui nous ont fait l'escalier.
Bon, ça c'est, oui, ça vient plus loin, ça vient de Dubaï, ça. Parce qu'on travaillait à Dubaï à l'époque, donc on avait de la chance de travailler avec une entreprise qui était correcte avec les gens, c'est pour ça qu'on l'avait fait, les gens qui travaillaient. Parce que Dubaï, il y a beaucoup de...
Quand ils travaillent,
il y a des Pakistanais qui sont là. Voilà.
C'est pas pareil. Il
faut faire attention à Dubaï. Mais encore une fois, par exemple, sur l'Adamant, ça avait très bien marché parce que on avait compris que le plaisir qui était pour les gens qui avaient travaillé dessus de venir en parler. Et ils n'attendent que ça. Que ça, qu'ils aient une place, qu'ils aient au moins déjà un travail soit valorisé. Si vous ne valorisez pas leur travail, il n'y en aura plus. Et c'est valable pour tous les corps d'État. Hein. Oui, c'est valable, on parlait de l'acier par exemple. Évidemment, le bois, c'est aussi plus facile parce que c'est vrai que le bois, on a un rapport avec le bois plus facile. On est tous un peu bricoleurs, on prend les bouts de bois, on les coupe, on maîtrise. Mais le bois, c'est plus facile. Mais même les électriciens. Poser un câble, si vous le faites sans plaisir, ça peut être catastrophique. Actuellement, on commence beaucoup de nouveaux projets parce qu'en fait, on travaille sur beaucoup de projets dans Paris en particulier. On travaille sur une dizaine de bâtiments dans Paris. Très différents. On commence par exemple juste en face, entre le pont Charles de Gaulle et le viaduc, on commence un hôtel. Un hôtel flottant. Théoriquement, dans un an. On commence à faire des études. On fait des projets aujourd'hui actuellement. De chaque côté du pont Alexandre III, vous savez, avec l'ouverture des voies sur berge, en fait, il y a des emplacements qui ont été libres, qui ont été libérés. Donc il y a plusieurs bâtiments et c'est en plein chantier, une guinguette pour le Rosa Bonheur, je ne sais pas si vous connaissez le Rosa Bonheur, qui est actuellement en but de Chaumont. Et donc on leur fait une guinguette flottante qui sera en place à la fin de l'année, à côté du pont Alexandre III.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, mais en tout cas, c'est vrai que c'est impressionnant parce que vous allez immédiatement au cœur de certains problèmes qui sont des problèmes vraiment fonds, complètement.
On essaye sur ce bateau.